Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à la télévision sur la guerre en Ukraine. Le président français a annoncé que les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Le mouvement pour le rassemblement et l'amitié entre les peuples plaide pour un accueil sans discrimination des réfugiés d'Ukraine, cela suite à des témoignages liés à des traitements discriminatoires. Jean-François Quentin, coprésident du MRAP, sera l'un de nos invités. L'invité de Pluriel hier soir était Diébana Diop, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole du parti, porte-parole d'Anne Hidalgo. Elle a évoqué la situation en Ukraine, extrait dans votre journal. L'ancien bâtonnier de Paris, maître Olivier Cousy, est mort hier. Il avait 62 ans. De nombreuses personnalités, dont l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ont salué sa mémoire. Et si on en parlait à 19h et 23h, émission consacrée à la Journée internationale des droits des femmes, mardi prochain, avec notamment Patricia Elias, avocate en droit international et militante pour les droits de l'homme. Elle fera le point sur les droits des femmes dans le monde arabe. Extrait dans votre édition. L'invasion russe en Ukraine, le chef de l'État français s'est exprimé hier soir lors d'une allocution consacrée à cette guerre et les actions menées au niveau européen et mondial. Il a annoncé que les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Emmanuel Macron a promis de protéger les Français après le retour brutal du tragique dans l'histoire. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, a-t-il précisé. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance Atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter, selon le propos du président français. Emmanuel Macron affirme sa volonté de rester en contact avec le président russe Vladimir Poutine afin de le convaincre de renoncer aux armes dans l'invasion de l'Ukraine. Et pour le chef de la diplomatie française, il est possible que le pire soit devant nous. Sur les villes ukrainiennes encerclées par l'armée russe, Jean-Yves Le Drian estime que l'on peut craindre une logique de siège. Le ministre des Affaires étrangères a une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu russe préalable à toute négociation, alors qu'un deuxième round de discussion entre la Russie et l'Ukraine doit se tenir ce jeudi en Biélorussie. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé ce matin l'Occident de penser à la guerre nucléaire. Le mouvement pour le rassemblement et l'amitié entre les peuples plaide pour un accueil sans discrimination des réfugiés d'Ukraine. Cela suite à des témoignages liés à des traitements discriminatoires. Jean-François Quentin, coprésident du MRAP.
Le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, est évidemment très préoccupé de ce qui se passe en Ukraine. Et sur la question des réfugiés, jusque-là, l'Europe a réagi de façon correcte, y compris des pays qui pourtant récemment encore ont fait preuve d'une grande fermeture par rapport aux réfugiés du monde entier, comme la Pologne ou la Hongrie. Mais enfin, actuellement, l'ensemble des pays d'Europe ont une attitude d'accueil qui est tout à fait correcte, et vous le disiez, la France aussi met en place, y compris du point de vue institutionnel, ce qu'il faut pour accueillir les migrants. Les réfugiés, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés, pardon. Alors, par contre, on a appris ces derniers jours qu'il y avait un tri parmi ces migrants, non pas tellement seulement des pays d'accueil, encore qu'on ne sache pas trop ce qui se passe à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, mais peut-être en amont, au niveau de l'accès tout simplement à la frontière, un tri entre les nationalités, et en particulier, ce serait désolant, de la part des Ukrainiens, une priorité donnée aux Ukrainiens pour passer la frontière et accéder à la Pologne ou à la Hongrie. Alors ça peut être au niveau des transports, des trains, des bus, des visas peut-être, puisqu'il y a quand même des visas de sortie. On n'a pas tous les détails, mais il semble bien qu'il y ait un tri qui serait totalement inadmissible. Évidemment que en situation de guerre, Quand on reçoit des bombes, on vérifie pas la carte d'identité de celui qui reçoit les bombes. Il se trouve que l'Ukraine a un certain nombre d'étrangers, en particulier des étudiants africains. Ça pourrait concerner, on vient d'apprendre ce matin que ça pourrait concerner également des Roms, qu'il y aurait une certaine exclusion des Roms qui cherchent à être réfugiés. Donc nous avons fait un communiqué parce que, et d'autres associations également, parce que tout cela nous semble désolant quand il y a une situation de guerre.
Et vous interpellez notamment l'Union européenne sur ce fait ?
Oui, puisque ça concerne les frontières européennes, dans un premier temps la Pologne et la Hongrie, mais aussi derrière tous les autres pays de ce compte accueil, d'arrivée, comme la France. Et donc c'est en effet au niveau de l'Europe qu'il faut que, auprès de ses membres, déjà de frontaliers, y ait la plus grande clarté, et puis qu'il demande aussi qu'il se fasse savoir à l'Ukraine que notre solidarité est entière, mais vraiment entière, c'est-à-dire qu'on souhaite accueillir tous les gens qui en ont besoin.
Vous l'écrivez, hein, c'est l'accueil de celles et ceux qui fuient la guerre qui doit s'organiser sans exception. Ces discriminations, elles devraient, selon vous, être davantage mises en lumière aujourd'hui ?
Effectivement, il faut, ça fait part, puisque il y a un certain combat au niveau des valeurs dans ce conflit, eh bien il faut rappeler que dans nos valeurs, il y a le refus de toute discrimination sur la base de la nationalité ou de la soi-disant race ou couleur de peau, etc. C'est effectivement lié à la défense des valeurs dont on se réclame en ce moment.
L'Union africaine s'est dite vivement préoccupée cette semaine sur le traitement infligé aux ressortissants africains.
Bien sûr. Et alors moi je parlais de l'Europe pour notre responsabilité, mais évidemment que l'Union africaine, elle, directement concernée, puisque ce sont souvent ses ressortissants qui risquent d'être discriminés, a tout à fait raison. Ça peut devenir une tâche, disons, mondiale, internationale, pour la communauté internationale, dans une situation où elle est en train de défendre un certain nombre de droits et de valeurs. Ça serait une tâche qu'il y ait cet aspect-là.
Jean-François Quentin, le coprésident du mouvement pour le rassemblement et l'amitié entre les peuples. L'invité de Pluriel hier soir était Diébana Diop, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux, porte-parole du Parti socialiste, et d'Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle. Elle a évoqué la situation en Ukraine.
D'abord, je voudrais avoir une pensée pour le peuple ukrainien et puis aussi pour le peuple russe, parce que c'est très difficile pour les civils d'être en fait les victimes de la conséquence de décisions qui n'appartiennent qu'à des dirigeants, en l'occurrence Vladimir Poutine. Donc d'abord une pensée vraiment au peuple ukrainien, à toutes ces personnes qui sont obligées de fuir leur domicile, qui sont obligées de fuir leur pays, de le quitter, hein, parce que ils sont sous la menace réelle d'armes et de bombardements. Donc je voudrais d'abord penser au peuple ukrainien, aussi une pensée pour tous les dirigeants, pour le président Zelensky qui fait de son mieux pour répondre, et puis redire aussi notre appui au gouvernement français, parce qu'il est important dans ces temps si sombres qu'il y ait une unité comme celle que nous avons vue justement au Parlement européen lors du discours du président Zelensky. Il faut que nous soyons tous aux côtés de ce président, aux côtés du peuple ukrainien, pour les aider justement à résister, parce que rien ne peut justifier la violation de la souveraineté d'un peuple.
Vous êtes agréablement surprise par les décisions de l'Union européenne qui ont été rapides et unanimes?
Oui, nous sommes agréablement surpris. Et puis, je crois que Poutine aura réussi au moins cela, c'est-à-dire d'arriver justement à unir l'Union européenne derrière le peuple ukrainien. Et je crois qu'il était important que l'Union européenne soit en capacité de répondre vite et fort à l'invasion de l'Ukraine, parce que on ne peut pas décemment laisser un peuple être justement malmené, être envahi par une autre puissance, parce que rien ne le justifie et c'est une violation du droit international.
Diana Bahadiop, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux, porte-parole du Parti Socialiste, et d'Anne Hidalgo, elle était invitée de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. L'ancien bâtonnier de Paris, maître Olivier Cousy, est mort hier. Il avait 62 ans. De nombreuses personnalités, dont l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ont salué sa mémoire. Aujourd'hui, le bâtonnier Olivier Cousy a perdu le combat qu'il livrait courageusement contre la maladie. C'était un passionné de son métier, de la défense. La justice perd un grand serviteur. Je présente à sa famille et aux avocats mes condoléances profondément attristées, selon les mots du garde des Sceaux. Maître Olivier Cousy avait été élu à la tête du barreau de Paris fin 2018 avec sa vice-bâtonnière Nathalie Roré pour un mandat de 2 ans. Il était régulièrement intervenu sur l'antenne de Radio Orient, la radio qui présente ses condoléances à sa famille et à l'ensemble de ses proches. Quelques 1200 candidats à l'exil ont tenté de franchir ce matin la haute clôture protégeant l'enclave espagnole de Melilla sur la côte nord du Maroc. Environ 350 d'entre eux y sont parvenus selon les autorités locales. Hier, 2500 candidats à l'exil avaient fait de même. Cette enclave constitue avec Ceuta la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique effectuera samedi une visite en Iran, un déplacement dans le cadre des efforts menés pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Une annonce d'un porte-parole de l'Organisation des Nations Unies. Et si on en parlait à 19h et 23h, émission consacrée à la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, mardi prochain, avec Patricia Elias, avocate en droit international et militante pour les droits de l'homme et les droits des femmes, et maître Radija Azourache, avocate et anthropologue, membre de l'association Lawyers for Women. Patricia Elias fera le point sur les droits des femmes dans le monde arabe extrême.
Malheureusement, dans nos pays arabes, nous avons des pratiques patriarcales et traditionnelles enracinées. Et donc, la politique des pays arabes vis-à-vis de la condition de la femme est souvent marquée par une réticence, vous voyez, vis-à-vis de ces pratiques patriarcales, mais d'un autre temps. Parce qu'aujourd'hui, la femme est devenue l'égale de l'homme rien que pour le travail, parce que la femme, elle aussi, a attaqué le monde du travail et subvient à part égale avec son mari ou à son compagnon aux besoins de la famille. Donc, du fait que la femme a acquis ses droits en travaillant, en étant elle aussi pourvoyeur de fonds et pour la famille, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas les mêmes droits que le sexe opposé. Mais le problème, c'est que ces droits des femmes et le principe d'égalité entre les sexes est le domaine de prédilection des discriminations. Et le plus important, c'est la famille. Le domaine de la famille reste un domaine de discrimination. Parce que je vais vous dire, dans tous les pays arabes, malheureusement, une femme divorcée, si jamais elle se remarie et qu'elle a une petite fille, la plupart des lois dans les pays arabes vont lui retirer la garde de son enfant parce qu'elle a osé se remarier. Alors que les hommes peuvent se remarier, divorcer, ils gardent toujours les droits parentaux sur leurs enfants. Alors qu'une femme donc est condamnée une fois divorcée à ne plus jamais se remarier, sinon elle perd la garde de ses filles. Dans certains pays, c'est de tous les enfants, mais dans la plupart des pays, c'est surtout la garde des filles. Imaginez, c'est juste insupportable de discrimination. Je ne parle même pas du fait que l'héritage, dans la plupart des pays arabes, l'homme a le droit d'hériter 2 fois la part d'une femme. C'est juste une discrimination qui, au XXIe siècle, est juste insupportable et ne pas continuer.
Patricia Elias, vous l'avez dit tout à l'heure, il arrive que des lois soient votées, mais qu'elles ne soient pas appliquées parce que la société n'est pas encore prête. C'est par la culture, le cinéma, la télévision, la littérature, Internet, qu'on pourra faire bouger les mentalités.
Absolument. La télévision, les films, je vais vous dire une chose. Nous avons malheureusement, dans les pays arabes, dans tous les films des pays arabes, vous avez des violences vis-à-vis des femmes, des violences que j'appelle ordinaires. C'est-à-dire que dans toutes les scènes, dans les films arabes, vous avez l'époux, le mari, le conjoint qui brutalise et violente sa femme par les paroles et par les gestes, à savoir l'attraper par les cheveux, la gifler, la jeter par terre. Et ça, c'est juste inadmissible. Nous devions faire une surveillance de nos médias, de nos films, pour éliminer cette violence ordinaire, entre guillemets, qu'il y a dans tous les films, qui font que le petit garçon et la petite fille qui regardent ces films trouvent que c'est normal d'agir comme ça plus tard avec son conjoint, sa conjointe, etc. Et que la petite fille va voir ça et se dire qu'il est normal plus tard de se faire traiter de la sorte par son époux. Je peux vous dire que parfois, je ne suis pas en train de regarder un film, j'attends les nouvelles. Et en attendant les nouvelles, nous avons la publicité d'un film arabe qui passe, et il y a des scènes de violence, mais parfois insupportables. Mais ce sont des scènes absolument ordinaires. Et je pense que ça passe extrêmement, de façon très importante par les médias, de s'auto-censurer concernant les scènes de violence ordinaires, comme j'appellerais, ou alors de montrer que ce n'est pas la norme et que ça n'est pas juste même pas admissible. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a deux séries très connues qui sont en train de passer à la télé et le mari, par exemple, va dire à sa femme « Je t'interdis de sortir, cette semaine tu ne sors pas, tu ne vas pas sortir de tout le mois, tu me demandes mon autorisation pour pouvoir sortir de la maison ». Mais on est où? On est dans quel siècle de parler de cette façon? Et je veux dire, les jeunes, les hommes, tous ces gens-là, en voyant ça, vont penser que c'est la norme. Il faut vraiment, les médias ont un rôle extrêmement important dans l'éducation de la population, dans l'avancement des droits humains, parce que les droits de la femme sont des droits humains. Je ne parle même pas des droits de la femme elle-même.
Patricia Elias, avocate en droit international et militante pour les droits de l'homme et les droits des femmes. Elle est l'invitée de Et si on en parlait ce soir à 19h et 23h avec Maître Khadija Azougache, avocate et anthropologue. Une émission présentée par Loïc Barrière. À 12h30, votre journal en langue arabe vous sera présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash et 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.